Fréquence protestante, La valeur de l'homme, Emmanuel Taïeb.
Au-delà des séries. Bonjour à toutes et tous, très heureux de vous retrouver en direct pour ce numéro de La Valeur de l'Homme consacré aux séries. Séries qui sont devenues désormais des objets artistiques et de consommation massive, surtout en période de confinement, mais à propos desquels il est toujours possible de renouveler le regard. Il ne s'agit plus désormais de s'émerveiller devant leur profusion, mais d'analyser leur forme même, les supports variés où prend place le récit et la façon dont les fans et les acteurs les font advenir toujours plus dans le réel. Une série n'existe pas seulement dans sa narration close, celle que les épisodes enferment. Elle se décline dans des variétés de supports, jeux vidéo et comics par exemple. Elle se réinvente périodiquement par le biais des reboots. Elle est aussi investie par les fans qui peuvent non seulement la critiquer, mais aussi l'investir en proposant des variations, en interpellant les showrunners, en créant du fan art et en discutant sans fin sur des forums du sens plus ou moins caché de leur série. Le récit explose donc, s'échappe de sa forme originelle pour muter en permanence, contribuant à une richesse narrative sans précédent, mais perdant aussi parfois en consistance, voire perdant son public. Dès lors, pour comprendre la place de la fiction, il faut travailler sa production, sa réception éclatée et son propos. Une œuvre doit-elle nécessairement avoir une cohérence interne? Doit-elle rester figée dans ses formes, de ses origines jusqu'à une révélation finale qui ne peut être que déceptive à l'image du monde? Nos attentes sont-elles démesurées par rapport à ce qu'une œuvre peut offrir? Je vais poser ces questions à mon invité Claire Cornillon qui est en duplex avec nous aujourd'hui. Bonjour Claire Cornillon.
Bonjour.
Claire Cornillon, vous êtes maîtresse de conférences en littérature comparée à l'Université de Nîmes et spécialiste notamment de la narration fictionnelle. Vous avez publié récemment « Sérialité et transmédialité infinie des fictions contemporaines » aux éditions Honoré Champion. Claire Cornillon, comme je ne voudrais pas perdre d'emblée tous nos auditeurs, dites-nous ce qu'est la transmédialité.
Oui, alors effectivement, c'est la question qu'on me pose généralement quand on voit le titre du livre. Alors le transmédia, c'est un mot qui s'est vraiment qui est de plus en plus présent pour parler de la fiction, et généralement c'est employé dans un sens assez vaste, c'est-à-dire plutôt quelque chose comme du multimédia, c'est-à-dire une fiction qui se développe sur plusieurs supports. Alors dans le livre, moi j'utilise une définition qui est un petit peu plus restreinte, qui se rapproche en fait de la définition qu'en a donnée Henry Jenkins quand il a conçu la notion de transmédia storytelling, donc de narration transmédia. Donc moi, c'est plutôt ça qui m'intéresse dans le livre, c'est-à-dire un récit donc, qui se développe sur plusieurs supports, c'est-à-dire séries, cinéma, jeux vidéo, jeux de rôle, etc., comics, littérature, mais où chacun des supports apporte un bout de l'histoire. Et c'est ça la spécificité en fait du transmédia, ce qui le distingue par exemple de ce qu'on peut appeler le cross-média, qui relève de l'adaptation, où vous avez une même histoire qui est racontée à chaque fois sur un autre support. Là, c'est pas la même histoire, c'est des bouts de l'histoire, et il faut regarder tous les supports pour avoir l'ensemble en fait du récit. C'est ça la transmédialité en fait.
Bon, alors pour une spécialiste de la narration comme vous, l'existence de cette transmédialité, l'existence de supports qui viennent recevoir des histoires, vous avez dû vous régaler. C'est ça aussi l'origine du livre. Il fallait acter ce moment d'explosion du récit.
Tout à fait, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que effectivement, quand on s'intéresse à comment se construit un récit, quel est le pouvoir de la fiction, quel est le sens de la fiction et du récit dans le monde contemporain, et ben en fait, les objets à étudier sont tellement immenses, complexes et passionnants que on ne peut que se réjouir en fait face à ces objets. Mais ça pose aussi toute une série de problèmes, de paradoxes. C'est extrêmement complexe. Et donc en fait, c'est ça qui a motivé, je pense, surtout le livre, c'est que je me rendais compte qu'on avait des discours qui étaient parfois simplistes, on utilisait des notions en fait sans forcément se rendre compte des impensés qu'il y avait derrière, des biais, et à chaque fois je me rendais compte que le concept était toujours plus compliqué, plus complexe que ce que j'avais pensé à l'origine. Et donc c'était un petit peu ça l'origine de ce livre, de reprendre des notions et d'essayer de voir quels sont les problèmes et les paradoxes que ces notions soulevaient en fait.
Bon, ben on va essayer de le faire aussi ensemble à travers donc séries et transmédialité. Vous donnez quelques exemples de cette transmédialité ou disons de ces séries ou de ces fictions qui se développent sur plusieurs supports. On peut peut-être en reprendre un ou deux. Par exemple, parmi les plus connus peut-être, tout ce qui renvoie au Marvel Universe. Alors racontez-nous, Claire Cornillon, Marvel, là, qu'est-ce qui se passe depuis 15 ans, enfin même voire depuis beaucoup plus longtemps si on pense aux comics. Là, qu'est-ce qui s'est passé plus récemment? C'est vraiment un cas typique de transmédialité.
Oui, tout à fait. Alors en fait, Henry Jenkins, quand il a développé son concept, son exemple de base, c'était Matrix, que beaucoup d'auditeurs, j'imagine, connaissent. Mais effectivement, un des grands cas de transmédialité actuelle, c'est Marvel. Alors effectivement, il s'est passé beaucoup de choses dans l'univers Marvel actuellement. Mais il faut comprendre aussi que c'est un univers qui, à l'origine, est déjà très complexe, puisque c'est un univers qui vient des comic books, donc de la bande dessinée. Et cette forme-là, les bandes dessinées ont déjà exploré des complexités narratives très grandes depuis des dizaines et des dizaines d'années. Simplement là, maintenant, on a ce qu'on appelle le Marvel Cinematic Universe, c'est-à-dire justement une adaptation, dans un premier temps, de l'univers Marvel en audiovisuel, c'est-à-dire au cinéma et dans les séries. Et effectivement, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est retrouvé avec un univers développé sur un nombre de films extrêmement impressionnant qui ont eux-mêmes des logiques sérielles, puisqu'en fait on a la grande franchise Marvel avec les super-héros, donc on connaît et Thor, Iron Man, etc. Et ensuite on a des sous-franchises, c'est-à-dire des groupements de films qui vont développer l'histoire d'un des personnages. Mais ce qui est très intéressant dans le Marvel Cinematic Universe, c'est qu'ils ont vraiment pensé l'intégralité en fait des films et qu'on a vraiment des grandes phases. Et chaque film est une sorte d'épisode et on a des films qui font en fait le lien entre toutes les sous-franchises. C'est ce qui s'est passé avec les films Avengers, dont vous avez probablement entendu parler parce que notamment le dernier Endgame a été vraiment un phénomène mondial énorme et c'était vraiment la fin d'une phase de narration. Alors, au-delà de ça, il y a déjà toute cette complexité de films, c'est-à-dire qu'on peut tous le constater, hein, il y a des films Marvel qui sortent en permanence, en fait, maintenant. Mmh. Mais en plus de ça, on a également des productions de séries télé qui se déroulent dans le même univers, qui sont donc complémentaires et qui font référence également aux films, mais qui développent d'autres aspects, d'autres personnages, sur d'autres tons et surtout sur d'autres supports. Donc, c'est pas la même chose de faire une série télévisée que de faire un film. Donc voilà, il se passe énormément de choses dans le monde Marvel actuellement.
Une des dimensions, Claire Cornillon, de cette transmédialité, c'est que on essaye, disons, de faire advenir de plus en plus la fiction dans le réel, c'est-à-dire de la rendre familière, de la rendre palpable. Vous indiquez un ou deux exemples. Alors, il y a le cas, par exemple, des livres qui sont écrits par des personnages. Ça, c'est quand même une activité très particulière, éditoriale, c'est-à-dire que le livre va être signé non pas par l'acteur qui joue le personnage, mais par le personnage. Qu'est-ce que c'est que cette affaire de personnages de fiction qui écrivent des livres qui sortent dans le réel ?
Oui, alors c'est un phénomène en fait qui n'est pas si récent que ça, hein, puisque les exemples que j'évoque remontent aux années 90 avec des séries comme Twin Peaks notamment, hein, puisqu'il y a l'autobiographie de Dale Cooper qui est sortie à l'époque, mais aussi le journal de Laura Palmer.
Et Dale Cooper, c'est l'agent. Hein, et
voilà,
Laura Palmer, c'est
FBI.
La victime. Oui.
Tout à fait. Et en fait, ce sont des pratiques qui existent jusqu'à aujourd'hui. Et l'idée, c'est qu'effectivement, vous avez tout d'un coup un objet que vous pouvez même éventuellement voir dans la série. C'est le cas, par exemple, des romans de l'auteur Castle, de la série du même nom. Il écrit des romans dans la série. Et puis tout d'un coup, vous pouvez avoir, vous, le roman dans vos mains, aller l'acheter dans une librairie. Et il est effectivement signé comme étant de l'auteur Richard Castle avec la photographie de l'acteur comme étant l'auteur sur le livre. Alors effectivement, c'est des phénomènes très intéressants qui montrent en fait les brouillages entre les rapports entre réel et fiction. Et moi, c'est vrai que j'ai tendance à dire que c'est plus un effet de fiction qu'un effet de réel. C'est-à-dire, ça nous montre en fait que notre rapport au réel est une construction et que donc, du coup, finalement, si vous voyez par exemple un profil Facebook d'un personnage fictionnel, est-ce que ce profil Facebook est plus fictionnel que la manière dont vous présentez sur votre profil Facebook en faisant un choix d'information, en donnant une certaine construction de vous-même pour l'extérieur. Donc je pense qu'il y a vraiment cette interrogation-là qui est portée par ce type d'objet et que justement le contexte de la transmédialité permet de mettre en avant en fait.
Donc c'est l'idée au fond que, alors non pas abandonner les catégories fiction et réel, mais considérer que au fond c'est l'idée de construction qui l'emporte. Hein. Vous parliez du profil Facebook, je construis une fiction mais je construis aussi ma vie quand je la mets sur Facebook. Donc, ne pas, au fond, Claire Cornillon, mettre la fiction à distance. Elle est, c'est pour eux, elle peut arriver jusqu'à nous.
C'est tout à fait pour eux. Et moi, je pense qu'en fait, ces œuvres interrogent beaucoup justement la place de la fiction dans nos vies, dans nos représentations mentales. Comment on appréhende le monde ? On appréhende le monde aussi en construisant des récits pour donner sens au monde. Mais on le fait pas simplement en regardant un livre ou en regardant un film. On le fait constamment, en fait. Et il me semble que vraiment beaucoup de fiction interroge dans le monde contemporain cette idée de la construction, cette idée du récit et cette idée de la fiction.
Alors dans la transmédialité, il y a l'idée qu'effectivement on va décliner une œuvre, hein, vous nous l'avez raconté, dans des supports différents. Ces supports vont avoir tendance, disons, à s'autonomiser. Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même d'avoir aussi une fragmentation du public, c'est-à-dire des gens qui vont lire que les comics, qui vont pas aller voir les films, d'autres qui vont louper qu'il y a des profils Facebook ou une activité sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de fragmentation ou est-ce qu'au contraire ce risque-là est assumé en disant on va au contraire toucher un public encore plus large parce qu'on va avoir tout le monde partout et des publics très différents.
Alors c'est tout le problème, tous les cas existent, c'est-à-dire que pendant longtemps la plupart des pratiques de récits de transmédia, il y avait vraiment un récit principal. Et donc on pouvait sans problème ne pas connaître tous les développements transmédia et ça posait pas problème de compréhension. Et donc effectivement il y a des supports qui sont bien sûr plus de niche que d'autres. Il est clair que si vous sortez un blockbuster au cinéma, ça va toucher un très grand public potentiellement, alors que si vous sortez un jeu vidéo, ça touche un grand public aussi, mais pas nécessairement le même. Si vous sortez un comic books, c'est peut-être un public plus restreint ou différent. Donc effectivement ce sont des problèmes qui se sont posés, mais il est vrai qu'on voit que les publics sont de plus en plus conscients quand même de l'existence de toutes ces possibilités fictionnelles et ont une plus grande pratique aussi de ces différents supports, ce qui fait que j'ai l'impression que effectivement les producteurs sont de plus en plus audacieux dans ce domaine-là. Et c'est vrai que par exemple ce qui est fait dans Marvel est de plus en plus audacieux parce que effectivement la franchise est tellement complexe qu'il y a des pratiques justement de référence. Soit vous avez suivi, soit vous n'avez pas suivi. Et il commence de plus en plus à être audacieux par rapport à ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un positionnement du spectateur ou de la spectatrice qui est nécessaire. Mais je pense qu'aujourd'hui, justement, avec la question des fragmentations des publics et de la masse, en fait, de fiction est tellement immense que de toute façon, vous ne pouvez pas espérer toucher tout le monde. Donc l'important, c'est de toucher des personnes qui vont être très investies dans la fiction. Et donc le public de niche, et ça, c'est quand même depuis un certain temps, hein, le public de niche est plus important qu'un public nécessairement de masse. En fait. Et donc, je pense qu'en jouant sur ces deux tableaux, les producteurs se situent sur ce continuum, en fait.
Quand vous dites audacieux, Claire Cornillon, ça veut dire que, et public de niche, ça veut dire que pour les producteurs et les showrunners, ils ne vont plus s'embarrasser du fait de savoir si tout le monde a bien tout suivi. Ils vont considérer qu'il y a à la fois une fanbase et puis quand même, au-delà de cette fanbase, un certain nombre de gens qui ont tout suivi. Et donc, à ce moment-là, on ne va pas s'encombrer des rappels, des flashbacks, on y va, et donc là ça permet d'innover en termes d'écriture et de pousser les personnages et le récit encore plus loin.
Oui, il y a de ça, mais ce sont des dynamiques qui sont assez anciennes parce qu'on a eu la même dynamique simplement à la télévision. Il faut bien comprendre que, par exemple, fut un temps, c'était un problème de penser une série qui se suivait en prime time parce que d'abord parce qu'il n'y avait pas les moyens justement d'enregistrer, de stocker, etc. Et que donc c'était un énorme risque pour des chaînes de diffuser quelque chose où il fallait pas manquer un épisode. Donc on est passé aussi par ce stade-là dans la télévision et petit à petit il y a des formes hybrides qui se sont mises en place et on a accepté ça, ce risque finalement, de effectivement perdre peut-être du public. Et donc je pense que c'est ce qui s'est mis aussi en place dans les franchises transmédia. Alors après, évidemment, on a tous les cas possibles, mais disons que ça ouvre un potentiel effectivement de narration tout à fait intéressant.
Dans cette ouverture narrative, il semblerait qu'à un moment on atteigne une espèce de mur, alors qui est peut-être le mur de la transmédialité, qui fait que, en tout cas, on peut être frappé par le fait qu'il y a beaucoup de reboots, comme s'il fallait. Alors le reboot, c'est une espèce de retour aux origines, de nouveau départ, de reset de la narration. Je pense à Spider-Man, je pense à Batman, je pense à Star Trek plus récemment. Comment vous l'analysez, Claire Cornillon, le reboot? C'est le moment où il faut plus pousser la narration, il faut revenir à quelque chose, à un point de départ, à quelque chose de plus excitant, qui sont les origines, en particulier chez les super-héros, ou les origines de personnages iconiques.
Oui, alors il y aurait plusieurs manières hein, de l'expliquer cette question du reboot, parce que bon, d'une part il y a quand même la question derrière du remake aussi. On est beaucoup dans une culture actuellement du remake pour des raisons économiques, c'est-à-dire que les gros studios de production, il faut comprendre aussi que faire ces films c'est des budgets absolument colossaux, et que il y a une culture de on va pas aller vers quelque chose de nouveau parce que justement c'est un trop grand risque de ne pas avoir un public derrière. Donc il y a déjà cette culture du remake. Ensuite la question du reboot lui-même, c'est aussi lié à cette question de la cohérence dont on parlera peut-être plus tard. C'est, il y a cette idée que dans l'imaginaire collectif actuellement, que tout l'univers doit être cohérent en termes de faits, au niveau factuel et informationnel. Et c'est vrai qu'à partir de là, vous arrivez à une limite. C'est-à-dire que si vous pouvez pas réécrire un certain nombre de choses, et ben effectivement, il y a certaines lignes narratives qui sont plus possibles. Vous êtes obligé de faire avec une masse d'informations trop grande. Et le reboot permet là justement d'explorer d'autres possibles narratifs. Ce qui se faisait constamment hein, là aussi dans les comic books avant même qu'il y ait ces déclinaisons-là en audiovisuel. Donc les lecteurs de comic books, ils sont tout à fait habitués. Mais aussi parce que ce sont des créations collectives. Et ça, c'est le dernier aspect, à mon avis, qui est tout à fait important pour comprendre le reboot. C'est que tout simplement, comme vous avez des collectivités, en fait, de créateurs ou de créatrices qui arrivent, qui ont envie de s'emparer de l'objet, et ben, ils vont en faire quelque chose de nouveau. Et le reboot, c'est aussi cette opportunité-là pour contribuer collectivement à une œuvre immense, en fait.
Oui, et de mettre sa marque à un moment avec son univers. Sur la question de la réception, puisqu'évidemment, elle se pose, on a commencé beaucoup à évoquer les publics. Vous écrivez dans votre ouvrage, Claire Cornillon, l'objet lui-même est augmenté de sa réception. C'est l'idée qu'au fond, exister sur plusieurs supports, c'est aussi éclater une réception, viser une réception complètement éclatée, au-delà des fans.
Alors, la question, elle est complexe hein, de la réception, mais on se pose même la question de savoir justement est-ce que les productions de fans font partie de l'univers transmédia.
Car il y a une production de fans.
Tout à fait. Donc ça, ce sont des choses qui en fait existent depuis très 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 longtemps, mais qui sont devenues, on dit mainstream, quoi, c'est-à-dire connues du grand public, généralisées. Par exemple, le fait de faire des vidéos de fans, c'était une pratique qui existait depuis les années 70, mais maintenant, les communautés de création de vidéos de fans ont vraiment explosé, et maintenant n'importe qui, parce qu'on a les moyens de faire du montage, parce qu'on peut poster sur YouTube, etc., pratique. Les fanfictions, on le sait bien, c'est le même phénomène, on a des plateformes énormes et des productions colossales en fait de récits. Donc on a toute cette production qui existe à côté en termes, disons, de fonctionnement économique et de système de représentation, qui existe à côté des productions dites officielles, mais qui pourtant exerce un dialogue avec ces productions qu'il est très complexe de décrire. Et donc la question de savoir quel est le statut de ces productions par rapport à l'univers fictionnel est vraiment une très très grande question du monde contemporain.
Il y a à la fois une production des fans, et puis il peut y avoir une hostilité ou une appropriation de la création elle-même. Alors en France, par exemple, on a été frappé par la pétition. Il y avait une pétition qui avait circulé aux États-Unis à la fin de la dernière saison, après la dernière saison de Game of Thrones, où un certain nombre de gens demandaient aux showrunners de la réécrire parce que ça correspondait pas du tout à ce qu'ils voulaient. Alors ça nous a beaucoup frappé en France, mais au fond, l'idée de la communauté de fans qui s'est approprié complètement la série d'une certaine manière et qui va s'opposer à la création elle-même, s'opposer à la fiction telle qu'elle lui est donnée, c'est quelque chose de relativement connu. Et comment est-ce qu'on peut l'analyser, cette appropriation qui peut être hostile même à la fiction qu'on aime ou à la manière dont elle est écrite?
Oui, alors là aussi, c'est vraiment des phénomènes paradoxaux qu'on peut analyser à plusieurs niveaux. Mais disons que là, il y a deux pôles en fait. Enfin, il y a trois pôles, mais disons les deux pôles là qui nous intéressent pour l'appréhension d'une fiction, c'est évidemment le pôle de celui qui la crée et le pôle de celui qui la reçoit. Et là, on a deux visions en fait de l'objet qui peuvent être tout à fait contradictoires. Or, évidemment, si on se place du point de vue des cultures fans, on est sur le point de vue de la réception. Et l'idée, c'est que le sens de l'œuvre provient de ceux qui la reçoivent et non pas nécessairement de celui qui la crée. Et bon, ça c'est très intéressant parce qu'on peut l'interpréter de différentes manières. Déjà, il est vrai qu'une œuvre, parce que moi, il faut aussi voir que dans mon livre, je me place dans une perspective où je considère que les séries télévisées sont des œuvres.
Ça c'est déjà
un positionnement qu'il faut comprendre. Donc du coup, pour moi, une œuvre, évidemment, elle transcende toujours son intention initiale ou elle transcende toujours son créateur initial. Donc évidemment, du coup, les réceptions qu'on peut en avoir, font partie finalement de l'ensemble des réseaux de signification de cette œuvre. Donc ça, c'est une chose. Alors après, la question effectivement de remettre, enfin d'attaquer les créateurs et les créatrices, ça aussi, c'est des phénomènes de ce qu'on appelle le fandom toxique, de phénomènes aussi de d'utilisation des réseaux sociaux. Il faut comprendre que les gens qui sont les plus qu'on entend le plus ne sont pas nécessairement représentatifs de l'ensemble des personnes qui regardent. Et c'est souvent une minorité, etc. Donc il y a aussi, il faut disons relativiser ces phénomènes dans le sens où il y a des problèmes d'utilisation des réseaux sociaux qui font qu'on se retrouve avec ces éléments qui sont quand même d'une grande violence et qui parfois ont une conception tout à fait paradoxale en fait de la fiction, parce que ils veulent s'approprier la fiction, mais en même temps ils attendent absolument que l'auteur soit d'accord avec eux, c'est-à-dire qu'en fait au lieu d'évacuer la question de l'auteur, ils remettent en avant l'autorité de l'auteur, et donc c'est vraiment des positionnements très paradoxaux.
Oui, c'est assez particulier. Dans la présence sur les réseaux sociaux, Claire Cornillon, peut-être alors de manière un peu anecdotique, quoique, vous expliquez aussi dans votre ouvrage que désormais les réalisateurs, les acteurs, les actrices vont aussi faire vivre l'œuvre sur les réseaux sociaux et tenter une espèce de phénomène boule de neige. Eux aussi font partie de la communauté de création de la fiction ou de diffusion de la fiction.
Alors, ça dépend des cas, mais effectivement, c'est de plus en plus quelque chose qui est difficile de cerner, en fait. C'est-à-dire qu'encore une fois, les limites, notamment les limites entre la production d'une fiction et l'univers fictionnel deviennent des choses qui se brouillent en fait, parce que justement les phénomènes de discussion avec entre la production et les fans sont devenus communs. Là aussi, justement, en raison des possibilités technologiques, notamment, avant, vous envoyiez une lettre au studio, bon, voilà, quelle influence ça pouvait avoir, ça prenait du temps, etc. Là, vous pouvez avoir une discussion directe, vous pouvez avoir des acteurs qui se filment entre deux scènes, etc. Donc, évidemment, ça introduit un rapport à l'œuvre qui est différent, et notamment au fait que les fans suivent tout autant la production, le processus de production de la fiction, que ensuite les épisodes de série eux-mêmes. Et donc du coup c'est comme deux récits qui existent et qui sont tout aussi intéressants pour une certaine catégorie de fans. Donc là encore il y a un brouillage des niveaux d'appréhension de l'œuvre, parce qu'après on peut pas s'en libérer. C'est-à-dire quand vous regardez la série, vous regardez aussi une série tout en imaginant les acteurs, les personnes qui l'ont écrit, parce que vous les connaissez, parce que vous avez interagi avec eux, etc.
Mais sans que ce soit gênant, alors paradoxalement, non. C'est-à-dire ça casse pas le ça brise pas le charme.
Non, pas du tout. C'est ça que je trouve très intéressant, c'est qu'on a fait toutes ces théories sur la question de l'immersion fictionnelle, etc. L'illusion, il faut. Et en réalité, on se rend compte que les spectateurs, les spectatrices, ils fonctionnent systématiquement à plusieurs niveaux en même temps, et ça les dérange pas. C'est pas que ils voient pas la différence entre les niveaux, c'est qu'au contraire, ils voient très bien la différence entre les niveaux, mais qu'ils les perçoivent en même temps, et que c'est un plaisir supplémentaire en fait, tout simplement.
On va écouter, Claire Cornillon, un petit montage relatif à Buffy, la série Buffy contre les vampires, avec notamment le personnage mystérieux du Cheese Man.
I've made a little space for the cheese slices. These will not protect you. I wear the cheese. It does not wear me.
Honestly, you meet the most appalling sort of people.
Valeurs de l'homme, fréquence protestante, au-delà des séries. Nous sommes en duplex avec Claire Cornillon. Alors pourquoi est-ce que vous avez choisi ce qu'on entend en début là de montage, c'est-à-dire la présence, les apparitions de ce très mystérieux Cheese Man, Claire Cornillon?
Alors, bon, déjà, j'ai choisi un extrait justement de Buffy parce que je pense que justement, c'est une des œuvres fictionnelles contemporaines les plus fascinantes et ma préférée. Et là, on est dans un épisode qui est en fait la fin de la saison 4 de Buffy qui s'appelle Restless. Et c'est un épisode, il faut voir que Buffy, en fait, c'est une série particulièrement intéressante parce qu'elle se positionne par rapport à la fiction, parce qu'elle se positionne par rapport à la sérialité et qu'elle est très, très consciente, en fait, du fonctionnement d'une narration sérielle. Et donc j'ai choisi cet extrait-là parce que le Cheeseman a justement suscité d'énormes discussions parce qu'en fait c'est un personnage qu'on ne peut pas intégrer justement à la cohérence d'ensemble de l'épisode. Alors, c'est déjà un épisode très sophistiqué qui est en fait fondé sur 4 rêves, donc très 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 sophistiqué même esthétiquement et en termes de narration très onirique. Et puis dans chacun des rêves, on voit ce Cheeseman qui apparaît. On ne sait pas pourquoi. Il dit une phrase énigmatique personne ne sait quel est le sens de ce Cheeseman. Et Joss Whedon lui-même a dit il n'y a pas de sens. Voilà, le créateur de la série a dit. Il n'a pas de sens, en fait. Et ça, je trouve ça très intéressant pour l'approche de la fiction, parce qu'on a tendance à penser, justement, dans cette perspective de récits cohérents, etc., que tout dans les récits fictionnels contemporains doivent être, tout doit être une information, tout doit être de l'ordre de l'information, tout doit être de l'ordre de l'information cohérente. Et en fait, on voit bien que l'appréhension de la fiction, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et là, le Cheeseman, c'est pas parce qu'il ne donne pas une information factuelle, qu'il n'est pas nécessairement cohérent dans un récit, qu'il n'est pas signifiant. Et c'est là, à mon avis, la différence qui est fondamentale. C'est qu'il apporte quelque chose, et notamment, il nous interroge sur comment on se situe par rapport à ce qui nous est montré. Et en ça, il est important, en fait. Mais il a un autre rôle que d'apporter un rôle informationnel, en fait.
C'est-à-dire qu'au fond, avec cette série-là, on est dans quelque chose de réflexif, c'est-à-dire que la fiction réfléchit à ses propres formes, et l'apparition du Cheeseman comme d'autres éléments d'expérimentation, c'est une manière de faire signe vers cette réflexivité, Claire Cornillon.
Oui, tout à fait. Alors, toutes les séries donc créées par Joss Whedon sont vraiment de cet ordre, hein, que ce soit Buffy, Angel ou Dollhouse. Ce sont des séries qui vont travailler leur propre sérialité, leur propre structure de manière réflexive, c'est-à-dire qu'en fait, elles nous font prendre conscience des phénomènes qui structurent le récit. Pourquoi ? Parce que dans une visée idéologique et politique, en fait. L'idée, c'est d'émanciper, de permettre l'émancipation du spectateur ou de la spectatrice. L'idée, c'est de dire, voilà, regardez en fait quelles sont les structures qui nous conditionnent, et à partir du moment où vous connaissez les structures qui vous conditionnent, ben, vous pouvez vous en libérer, ou en tout cas vous positionner par rapport à elles. Donc c'est la réflexivité, je pense, dans Buffy et dans beaucoup des séries que j'évoque, elle est vraiment liée à ça, elle est liée à un objectif, à mon avis, politique, vraiment d'émancipation. Et ça, je trouve que c'est vraiment fascinant.
On est en présence, Claire Cornillon, depuis 10-15 ans maintenant, de séries qui précisément font appel à l'intelligence du spectateur et voire actent en réalité cette intelligence du spectateur. C'est le cas de Buffy, c'est le cas des séries par exemple de David Simon. Il faut vraiment aujourd'hui peut-être tordre le cou à l'idée que les séries seraient purement idéologiques ou que la télévision serait un instrument d'abrutissement des masses. Enfin, c'est quelque chose qui a beaucoup disparu. Mais là, il faut quand même rappeler qu'on est sur des séries qui ne s'appuient que sur l'intelligence dans la réception et l'intelligence dans la maîtrise de la narration des spectateurs.
Oui, tout à fait. Alors, il ne faut pas croire que c'est une caractéristique uniquement du contemporain. C'est quand même important parce que quand on se replonge dans l'histoire de la télévision américaine, quand on voit la créativité, la sophistication des procédés déjà, par exemple, dans la télévision américaine des années 50, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Donc déjà, il faut pas penser uniquement à une espèce de ligne du progrès. Bon, ça, c'est un point. Mais effectivement, dans les séries contemporaines, on a beaucoup de ce type de phénomène-là. Et il est clair que les séries ne sont pas bien sûr qu'un outil d'abrutissement des masques, tout simplement parce que encore une fois ce sont des œuvres, donc c'est-à-dire bien évidemment il va y avoir des choses qui sont plus simples, qui sont moins intéressantes, mais il va y avoir aussi d'autres œuvres qui elles sont vraiment encore une fois des figures, enfin des outils d'émancipation du spectateur, et ça ne dépend pas de leur contexte de production. Ça, c'est très important. C'est pas parce que ce sont des séries par exemple du câble ou maintenant des séries qui viennent de plateformes de streaming que on va être davantage dans des perspectives idéologiques d'émancipation versus des logiques commerciales. C'est pas lié à ça. C'est lié en fait à la manière dont les personnes qui manipulent ces formats ce qu'elles ont à dire et comment elles vont s'emparer en fait de la forme série, tout simplement.
On a commencé un peu à en parler dans un des effets de la transmédialité, un des effets de l'explosion de la narration sur plusieurs supports, c'est que ça met fin, en tout cas c'est quelque chose que vous développez beaucoup dans votre ouvrage Claire Cornillon, ça met fin à l'injonction à la cohérence narrative, à la consistance des personnages dans les séries et dans votre ouvrage vous insistez sur le fait que cette fin d'injonction à la cohérence, elle se marque très particulièrement dans une série qui s'appelle Lost, qui est une série qui a beaucoup marqué et dont l'épisode final a très largement divisé. Est-ce qu'on peut peut-être partir de Lost pour que vous nous expliquiez pourquoi, au fond, la cohérence d'une œuvre n'est plus quelque chose de si important ?
Alors, justement, si on part de l'exemple de Lost, je dirais que, justement, on est encore complètement dans une injonction, justement, à la cohérence. Justement, moi, je pense que c'est très limité, c'est réduire, en fait, l'œuvre. C'est ça que j'essaye de démontrer, en fait, c'est qu'il y a, un discours collectif qui est encore très, très centré là-dessus, en particulier à cause des logiques transmédia que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée de construire un univers fictionnel cohérent. Et effectivement, en fait, Lost est un bon exemple parce que, justement, ça a divisé complètement le public entre des personnes qui avaient des attentes justement informationnelles par rapport à la série et c'est vrai que donc la série a joué là-dessus en particulier avec son développement transmédia puisqu'en fait Lost est une série à mystère si vous voulez où donc des personnes sont victimes d'un crash d'avion et s'écrasent sur une île et cette île est extrêmement mystérieuse donc dès le départ il se passe toute une série de choses qu'on ne sait pas comment expliquer et au cours en fait de la série, il y a eu des développements transmédia où en fait il y avait une sorte de jeu, The Lost Experience, où les personnes étaient invitées à aller sur internet, à appeler des faux numéros de téléphone, etc., pour récupérer des informations supplémentaires. Donc c'est vrai que la démarche transmédia en fait de Lost amenait les personnes à être dans une position active de décryptage d'indices. Or, en fait, la série elle-même, si on la regarde simplement la série sans sa démarche transmédia, en fait, le discours que développe Lost, c'est plutôt justement un discours de mystère que d'énigme. C'est un discours sur, voilà, on va vous montrer là encore comment fonctionne la fiction, ce que vous appréhendez quand vous voyez un certain nombre d'images, mais à chaque fois, il faudra remettre en question ce que vous avez dit avant, ce que vous avez vu avant et ce que vous avez compris avant. Donc, c'est une démarche de quête initiatique, mais qui porte pas tellement sur la dimension informationnelle, finalement, de l'île, mais plutôt sur une portée, alors, parce que la grande problématique de Lost, en fait, c'est la question du collectif, et de l'amour au sens large. Et donc, la série, en fait, se finit là-dessus, sur les relations entre les personnages, sur la construction d'une fiction commune, qui permet de dépasser la mort, la souffrance, etc. Et donc, en fait, les personnes qui étaient dans une perspective d'énigme et qui voulaient une révélation finale n'ont pas même parfois compris en fait ce que la série proposait à la fin. Donc, on voit bien en fait la différence entre un imaginaire collectif qui s'est construit sur ce qui est censé être une fiction et des exemples de fiction réelle qui en fait ne correspondent pas à ce schéma-là et qui du coup, ben, forcément ont une réception controversée.
Donc, ça implique aussi pour nous Claire Cornillon de sortir, disons, d'une vision linéaire ou d'une vision de la série purement informationnelle qui irait vers une révélation finale. Non, en réalité, il se joue complètement autre chose dans le propos des séries qu'on risque de manquer, comme un certain nombre de gens ont loupé la fin de Lost dont vous parlez là, c'est-à-dire l'idée d'une communauté dans l'amour, alors que les gens attendaient une révélation existentielle.
Oui, alors ce que je trouve d'autant plus étonnant, c'est que dans d'autres arts, on sait, enfin c'est pas étonnant justement parce qu'il y a déjà la difficulté de penser évidemment la série télé comme un art, mais dans d'autres arts, ces questionnements-là sur la fin du récit linéaire, aristotélicien, etc., en littérature, ça fait très longtemps qu'on les a pensés, la déconstruction du personnage, la déconstruction du récit, etc. Or en fait, on a du mal à penser ça sur les productions audiovisuelles telles que les séries télévisées. Or de fait, la réalité en fait des séries est très variée. Vous avez des séries qui sont très linéaires, d'autres qui ne le sont pas, d'autres qui font... Donc il faut comprendre quel est le système que se donne à elle-même la série pour ensuite appréhender évidemment son fonctionnement. C'est sûr qu'on peut pas interpréter de la même manière Twin Peaks et Grey's Anatomy. Elles se donnent des systèmes de représentation qui sont pas du tout les mêmes. Et une fois qu'on les comprend, à ce moment-là, on peut rentrer dans toute la profondeur que ces deux séries peuvent nous apporter.
Au passage, d'ailleurs, Claire Cornillon, vous dites la notion de spoiler, on va dire le fait de divulgâcher quelque chose, n'a pas réellement d'importance. Elle n'aurait d'importance que si ce sont les péripéties qui nous intéressent, alors qu'en réalité, il peut se passer autre chose à un autre niveau dans une série.
Oui, c'est tout à fait ça. Ça rentre encore dans cet imaginaire de la fin, d'un récit vraiment téléologique, c'est-à-dire qui est mené vers un but. Et le seul élément important, c'est ce but. Donc du coup, le seul élément important, c'est de révéler un certain nombre d'informations. Mais en réalité, effectivement, une série, c'est beaucoup plus que ça. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi d'autres choses. Ça peut être évidemment la construction des personnages, ça peut être des éléments esthétiques. Faut pas oublier que c'est aussi un récit audiovisuel. Hein, donc une information, elle se construit par le biais d'images et de sons hein, dans la série, ce qui est quand même important, ce qui amène toute une série d'interprétations possibles. Et donc, effectivement, il y a cet imaginaire du spoiler qui est devenu très, très prégnant aujourd'hui parce qu'on est dans un imaginaire du récit suivi, parce qu'on est dans un imaginaire du récit qui doit être mené vers sa fin. Et à mon avis, c'est dommage tout simplement parce que ce n'est pas la seule manière d'appréhender les objets qui nous intéressent, en fait.
On va écouter un petit extrait de X-Files. On va rester dans l'idée du décalage inhabituel dans une série.
We got another dead tourist. You got to do another autopsy.
Tonight? I just put money in the magic fingers.
I won't let it go to waste.
This one's my room, Holder. Don't get mud everywhere.
Yeah. Okay. Lacking a solid lead, I just wanted to get cleaned up. I had the sheriff drop me at the motel, which is where I ran into you.
What do you mean you want me to do another autopsy? And why do I have to do it right now? I just spent hours on my feet doing an autopsy, all for you. I do it all for you, Mulder. You know, I haven't eaten since 8 o'clock this morning, and all that was half of a cream cheese bagel, and it wasn't even real cream cheese. It was light cream cheese. And now you want me to run off and do another autopsy? What the hell happened to you?
Finally, you left.
Don't you touch that bed.
La valeur de l'homme, fréquence protestante, au-delà des séries. Nous sommes en duplex avec Claire Cornillon. C'était X-Files. On a entendu les voix de Mulder et Scully dans une séquence. Il y en a quelques-unes un peu disséminées dans l'ensemble des saisons. Une séquence un peu humoristique. Alors, on l'entend pas forcément là extrêmement bien, mais c'était un moment un peu particulier où Mulder se jette sur un lit qui vibre et puis est dans une espèce de à une voix off un peu décalée. Alors, on est dans quoi, Claire Cornillon, là? On est à la fois dans l'expérimentation à la Buffy, mais est-ce qu'on n'est pas aussi dans autre chose, hein, l'idée d'un récit qui peut se permettre de montrer sa propre narration, quelque chose comme ça?
Oui, tout à fait. Alors, effectivement, ce que je trouve très intéressant dans cet extrait, c'est que si on ne connaît pas très bien X-Files, on se dit c'est pas du tout à ça que je m'attendais quand je regarde X-Files. C'est vraiment décalé, c'est humoristique, mais et c'est quelque chose qui a justement suscité de très grandes discussions au sein du fandom, parce qu'il y a de plus en plus d'épisodes comiques comme ça, voire parodiques dans X-Files. Il y en a au début un par saison, et puis on arrive à la saison 6 où il y en a énormément. Là, c'est un épisode qui s'appelle Bad Blood, le shérif allé dans l'ombre en français, donc une histoire de vampire. Et ce que je trouve très intéressant en fait dans cet épisode, c'est que c'est un épisode qui est raconté, qui porte sur le point de vue. L'histoire est racontée d'une part par Mulder et ensuite par Scully, ou l'inverse, j'avoue que je ne sais plus. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est pas du tout la même histoire qui nous est racontée et on ne sait pas en fait quel est les deux exagèrent, ça c'est sûr, par rapport à la situation, et donc on ne sait pas quel est le réel. Or, c'est un épisode qui est donc comique, qui paraît décalé et pourtant qui va donc en fait au cœur de la problématique qui est celle d'X-Files, c'est-à-dire la question du point de vue. Le X-Files, c'est entièrement là-dessus. En fait, c'est sur, vous avez un phénomène inexpliqué, et ensuite vous allez avoir des débats entre des personnes qui ont plusieurs opinions sur ce phénomène inexpliqué, et on va essayer de comprendre quel est le réel, en fait. Et généralement, à la fin, on n'a aucune preuve, même si on a une opinion à la fin, on n'a pas de preuve pour savoir quel était en fait ce phénomène. Donc en fait, pour moi, ce que je trouve intéressant, c'est que là, X-Files nous explique là aussi son fonctionnement par le biais d'un décalage de ton. Mais en fait, on reste complètement dans la problématique d'X-Files. Donc, alors que justement, ces épisodes comiques ont parfois été critiqués, alors pas nécessairement celui-là, parce qu'il y en a qui font vraiment partie des épisodes cultes d'X-Files, mais disons que cette propension à décaler comme ça le propos, certaines catégories de fans considéraient que c'était vraiment perdre ce qui faisait le cœur de X-Files. Alors, c'est effectivement pas le même ton, c'est pas la même atmosphère, c'est même pas la même esthétique, mais par contre, c'était vraiment une manière de rentrer encore plus, à mon avis, dans le propos même d'X-Files, c'est-à-dire de montrer qu'on est dans, là aussi dans des constructions de récits et qu'on essaye d'interpréter le réel, mais que le réel, il est très difficile à atteindre. Et c'est tout le propos d'X-Files, la vérité est ailleurs, c'est-à-dire justement la vérité, elle est toujours, on cherche à essayer de l'atteindre, et c'est une quête sans fin en fait.
C'est l'idée aussi, et c'est ce que vous dites, hein, que la fiction va se montrer elle-même comme fiction, en se décalant, en montrant ses formes, en jouant sur les points de vue, en suspendant à un moment des effets de réel, de crédulité, en suspendant sa propre convention, puisque X-Files était considéré comme une série un peu grave et angoissante, et qui là passe à l'humour. Au fond, Claire Cornillon, vous plaidez dans votre ouvrage pour l'idée que il faut acter aujourd'hui la modernité des séries, comme on a acté depuis longtemps la modernité au cinéma, la modernité de la peinture, la modernité de l'écriture romanesque. C'est ça qui manque encore, c'est d'acter la modernité de la forme sérielle.
Oui, tout à fait. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'on a du mal même en termes de discours critique à penser un certain nombre de notions qui vraiment se sont imposées dans les discours critiques, notamment sur la littérature et sur le cinéma, parce que en fait certaines choses qu'on voit très très bien dans les séries, en fait relèvent de ce qu'on pourrait appeler justement l'art d'avant-garde, l'art expérimental, etc. dans d'autres pratiques artistiques, et que il y a encore une forme de réticence à penser, disons, des séries, a fortiori des séries justement diffusées sur des grandes chaînes, des séries qui ont un énorme public, de les penser comme ça, comme des œuvres expérimentales, comme des œuvres tout court en fait.
Mais pourquoi alors, pourquoi ces résistances? Parce que la forme sérielle qui est née à la télévision, on veut absolument qu'elle ait sa forme linéaire, qu'elle aille d'un début vers un dénouement, qu'elle relève de l'entertainment et pas au fond de l'irrigation d'une pensée ou d'une réflexion du spectateur, Claire Cornillon?
Oui, tout à fait, c'est ça, et c'est-à-dire qu'en fait, c'est quand même un cheminement qu'on a observé sur tellement d'objets qu'en fait, il devient d'une banalité affichante. Enfin, on a fait le même chemin sur l'objet qui est le roman. Maintenant, on fait le même chemin sur le jeu vidéo. C'est-à-dire que voilà, c'est toujours perçu au départ comme quelque chose avec plein de guillemets, justement, des choses populaire, donc du coup simple, donc du coup etc. Pendant il y a toute une série de choses qui vont avec, et en fait au bout d'un moment on se rend compte que non, donc et ça devient légitimé. Alors on légitime une partie des corpus, puis après on en légitime d'autres, on recrée des hiérarchies au sein des corpus. Enfin, ça c'est vraiment ça, c'est finalement on l'a observé dans énormément de domaines, et malheureusement j'ai envie de dire on l'a observé aussi pour la télévision, et on continue en fait de l'observer encore.
Bon, bah c'est le travail des analystes que vous faites d'essayer de pousser dans cette direction. Merci beaucoup, Claire Cornillon, d'avoir été avec nous en duplex. Cette émission s'achève. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Sérialité et transmédialité infinie des fictions contemporaines, publié aux éditions Honoré Champion. C'était en 2018. Merci à Emmanuel Demisco à la réalisation. Cette émission sera très vite en podcast sur le site de Fréquence Protestante. On se retrouve pour notre part le samedi 1er août à 13h15 avec Nicolas Picard, qui est historien, pour évoquer la peine de mort au XXe siècle. À bientôt.